tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut à tous.
De Dwayne.
Hello tout le monde.
Et de Morren.
Bonjour.
Un podcast sponsorisé par Orange. Alors, pour donner les backgrounds de l'émission, n'est-ce pas? Il se trouve qu'on enregistre ce podcast lundi, ce qui me met en stress, là. Parce que, d'habitude, le podcast, on l'enregistre au plus tard, dimanche à 17h, pour que ça me laisse un peu de temps pour faire le montage. Et là, parce que, encore une fois, chez Orange, j'ai une coupure d'internet, hein, je sais, ça devient une tradition chez moi, pendant tout le week-end, on n'a pas pu enregistrer. Voilà. Merci Orange, hein, je vous aime beaucoup.
Ce qui est rigolo, c'est qu'il te coupe l'internet, tout ça pourra mettre la fibre dans un immeuble qui n'est pas le tien. Ça, c'est toujours très rigolo.
Non, mais ça, c'était la dernière fois. Et ils me l'ont coupé pendant 3 semaines, hein, la dernière fois. Non, là, c'est juste qu'apparemment, il y a une panne dans le quartier ou un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai pas eu d'explication, hein, le mec, je l'ai même pas vu. Bon, allez, au sommet de l'actualité cette semaine, on vous parlera de Starmancer, on enchaînera ensuite sur la débâcle de System Shock, on évoquera la grève des salariés de chez Eugène System, nous évoquerons également Valve qui bannit les jeux Incel Games, on parlera de Google qui supprime des évaluations positives de manière assez arbitraire, dirons-nous, n'est-ce pas? Et enfin, on terminera par une recommandation. C'est une émission qui parle de l'histoire et du jeu vidéo faite par Nota Bene. Allez, c'est parti, on commence, mon cher Dwayne, avec Starmancer.
Donc Starmancer, c'est un jeu du développeur Ominux Games, hein, donc c'est un peu inspiré, on va dire, de Dwarf Fortress, donc c'est un jeu de simulation, gestion spatiale. On va jouer un Starmancer, donc le Starmancer, c'est un humain fusionné à une machine / intelligence artificielle. On va pouvoir vraiment tout gérer, de la construction de la base à la gestion des différents habitants, et ça va être très complet, un peu, moi ça me fait penser pas mal à justement Oxygen Not Included, je parle dans le concept et dans le fait de pouvoir tout gérer, et que tout ce qu'on va faire, en fait, s'il y a une erreur, c'est vraiment nous qui avons fauté, c'est-à-dire que t'as tous les outils pour pouvoir réussir. En fait, dès que tu fais une erreur, ça t'apprend pour ta prochaine session. Et toutes les histoires vont être différentes. C'est-à-dire, tu vas pouvoir être bienveillant et faire en sorte que tout le monde soit heureux, ou partir en mode Matrix, IA dominatrice. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
Plus que Dwarf Fortress, je le comparais à RimWorld et Oxygen Not Included aussi. Parce que Dwarf Fortress, je trouve que... Alors, certes, c'est un jeu qui est un peu à l'origine de ce genre-là, quoi, on va dire. Mais Dwarf Fortress a quand même cette spécificité que c'est un jeu où t'as tout un aspect exploration. Dwarf Fortress, c'est le truc, tu creuses dans une mine, tu tombes sur un démon, tu vois. Enfin, c'est... En tout cas, moi, très intéressé. Je précise que c'est un Kickstarter qui est un proto, qui est disponible. Je ne vous incite absolument pas à aller le financer, parce que...
C'est déjà fait, quoi.
Ils ont combien déjà,
Ils ont demandé 40 000 dollars et ils sont à 58 000.
Donc oui, il n'y a pas besoin d'aller mettre des sous en plus. Hein. Surtout qu'on va voir avec le jeu d'après. Des fois, donner des sous en plus, ça donne des mauvaises idées aux développeurs. Je précise que c'est vraiment un proto, hein, qu'ils mettent à disposition. Hein. C'est pas une démo, vous attendez pas un truc de fou. Mais c'est quelque chose de très propre. J'aime beaucoup la direction artistique. Très attiré par le concept. De toute façon, moi, ces jeux, tu sais, j'aime ça. Les jeux que tu lances, c'est que à un moment, tu regardes, ah tiens, il fait jour. J'aime beaucoup. Voilà.
Et puis, c'est très joli aussi, il faut dire. Moi, j'aime bien cet aspect rendu 3D avec des textures 2D, en fait, par-dessus. Je trouve que là où je me posais la question du « Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus que RimWorld, par exemple ?» auquel j'ai pas mal joué, et je me suis dit que, ouais, mais pour ne serait-ce que le rendu esthétique et la DA, ça peut m'intéresser quand même.
Bon, allez, on va maintenant enchaîner sur un Kickstarter qui a mal tourné, pour le coup. Et ce Kickstarter, c'est celui de System Shock. Alors, je rappelle que c'est un projet que j'attendais beaucoup, qui a été financé en juin 2016, je crois, juin-juillet 2016. Donc c'est un Kickstarter qui est plutôt récent. Et normalement, tu sais, on se dirait que quand même, comme c'est un Kickstarter qui est arrivé un peu après la bataille, ils auraient pu apprendre des erreurs de leurs aînés. Et notamment parmi les erreurs communes qu'il y a sur Kickstarter, c'est ce que les anglophones appellent le feature creep. Tu commences à ajouter des features, tu en rajoutes, tu en rajoutes, tu en rajoutes, et à un moment donné, tu te rends compte que le scope de ton projet, si tu veux, il a un peu explosé, quoi. Et tu te rends compte que t'as mal géré tes ressources. Et ce, d'autant plus que, en général, on sait très bien que ces studios, c'est des studios qui bossaient avec des éditeurs, et qui donc se sont retrouvés catapultés du jour au lendemain à une place où ils doivent gérer un budget, ils n'ont pas forcément les gens compétents à l'intérieur de la boîte pour faire ça. Et là, c'est un peu le cas de ce System Shock, c'est-à-dire que ils ont engrangé 1 350 000 $ avant impôts et avant contributions à Kickstarter, etc. Donc on va dire à peu près 1 000 000 $, quoi. Ils ont commencé un peu à péter un plomb. Ils se sont dit, ah bah finalement, non, on va pas partir sur un remake, on va plus repartir sur une espèce de suite spirituelle, sachant que à côté, il y a un studio qui fait System Shock 3, hein, donc il y a déjà une autre suite qui est en route. Résultat des courses, on a eu un post là, cette semaine, le 16 février, qui est un post d'excuse en gros, comme d'habitude, hein. C'est-à-dire qu'on t'explique que oui, on vous a trahi, on en a déconné, etc. On a vu trop gros, désolé, on va mettre le jeu en pause et on va... il faut qu'on réfléchisse. Bon, bah autant dire que le projet est mort, hein. Moi je vous le dis tout de suite, hein, à moins qu'ils trouvent des sources de financement externes, je vois pas comment ce projet-là peut aboutir. Très sincèrement, je vois pas. Dwayne ?
Moi je leur donne même pas l'excuse en fait de la gestion, parce que ce qu'ils se sont dit, c'est directement, on va en fait lâcher l'idée originale de ce qu'on voulait faire et partir sur un projet beaucoup plus ambitieux. C'est même pas se dire on rajoute des features, c'est vraiment ils sont partis sur un projet beaucoup plus ambitieux qu'un simple remake, ce qu'ils avaient proposé au départ. Donc là, du coup, c'est vraiment entièrement de leur faute. En plus, il y a, comme tu l'as dit, à côté, bah, les différentes expériences des anciens Kickstarter qui ont soit foiré ou qui ont galéré, bah, comme Broken Edge, enfin, et il y a des milliers, enfin, un paquet d'exemples à ce niveau-là.
Bah, surtout qu'on sait que $1 million, c'est pas grand-chose, quoi, pour faire un jeu.
Mais ouais, ça permet de survivre pendant 1 ou 2 ans, selon le nombre d'employés. Et après, ça dépend du nombre d'employés que t'as.
Ils ont une quinzaine de salariés, en plus, je crois, donc.
Voilà, donc, c'est quand même compliqué. Et moi, c'est vraiment ça qui me gêne dans ce projet. Comme tu l'as dit, a priori, c'est mort parce que vu l'ampleur où ils ont voulu aller et le fait qu'ils n'ont pas pu trouver de partenaire, là, ils disent on se met en pause. Donc, bon, on les revoit pas avant 3 ans, quoi. J'ai l'impression.
ATH.
Moi, ce qui me fait chier, c'est que les gens ont financé, en fait, à la base, un remaster de System Shock. Et au final, c'est les développeurs qui sont partis totalement sur autre chose, alors que les gens ont donné leur denier pour s'attendre à un produit fini. Cette mode des remasters, c'est quelque chose qui me saoule complètement. Déjà, dans la génération actuelle, on s'en mange pas mal. Mais là, on peut se dire que ça a valé le coup, parce que System Shock, c'est quand même un jeu qui date de plus de 15 ans. Ça peut être bien pour les gens qui n'ont pas connu le jeu à l'époque. Mais malheureusement, les gens qui ont payé pour le remaster, finalement, bah, ils vont se retrouver avec quelque chose... qui était pas du tout ce qu'ils attendaient. Et même, enfin, là, à l'heure actuelle, ils auront même pas de remaster ni rien du tout. Donc, je trouve ça un petit peu déconnant, quoi.
Moi, ce que je trouve le plus déconnant, c'est que tu te dis, à un moment donné, OK, on va changer le scope du projet, mais on va pas chercher d'investisseurs. On verra après. Je sais pas. Moi, le bon sens, c'est de dire, OK, on a ça. On cherche à trouver des investisseurs pour augmenter le scope du projet, et si on trouve pas, on continue sur notre voie. Ne serait-ce que ça, ça aurait évité bien des problèmes. De toute façon, pour moi, ces gens n'ont aucune excuse, et je dirais même plus, c'est à cause de gens comme ça qu'aujourd'hui Kickstarter est complètement mort, parce que concrètement, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Il y a quasiment plus de projets. On se rend compte de toute façon, que ce soit du côté des développeurs ou des joueurs, que c'est pas un système qui marche, quoi. C'est-à-dire que comme il y a personne pour contrôler ce qui se passe ou pour filer un coup de main au développeur ou checker si ça va bien, bah c'est la merde. Voilà, c'est alors moi je suis pas du tout déçu d'avoir financé tous les projets que j'ai pu financer sur Kickstarter, surtout que Kickstarter a quand même donné des trucs super cool, hein. Hollow Knight qui est mon jeu de 2017, je vais le dire à plein de podcasts, hein, je vous préviens ça. avec Persona 5. C'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter et qui n'aurait pas pu exister sans Kickstarter. Donc voilà. Mais malheureusement, Kickstarter c'est mort et c'est à cause de studios comme ça, quoi. Voilà. ATH.
Oui, je voulais terminer sur news qui est un peu en parallèle. Bon, ça a rien à voir entre guillemets avec le sujet là, mais c'est par rapport en fait au remaster de Dark Souls qui a été annoncé. Et c'était juste pour dire que c'est le studio Virtuo qui va être à l'origine du projet Et quand on sait que c'est le studio qui a fait donc Assassin's Creed The Ezio Collection, Batman Return to Arkham ou bien encore le portage de Hayley Noir, on peut s'inquiéter parce que c'est des portages qui ont été complètement foirés. Et le remaster en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais faut donner ça à des mecs qui savent le faire, quoi.
C'est sûr. Bon, on va maintenant parler d'un gros dossier, la mandraine. Et je vous préviens, c'est pas très joyeux. Hein.
Non, c'est l'heure du gros dos.
Quoique, d'un autre côté, je trouve que... Enfin, vous allez voir, c'est un sujet qui peut donner espoir dans le milieu du jeu vidéo, parce qu'on sait que le milieu du jeu vidéo, c'est pas un milieu qui est très syndiqué habituellement.
C'est vrai. Et puis c'est pas un milieu qui parle beaucoup aussi de ce qui se passe dans son industrie. Donc effectivement, en ce moment, les langues se délient pas mal avec l'histoire de Crunch Investigation menée par Canard PC, Mediapart et c'est quoi le dernier ?
Le Monde.
Le Monde, merci. Et ça fait un petit peu partie de ça, l'air de rien. Le 14 février, en fait, on a appris que quasiment la moitié des effectifs du studio de développement français Ugen Systems, alors vous vous souvenez peut-être pas de ce qu'ils ont fait, mais c'est eux qui ont sorti récemment Steel Division Normandy 44, ils ont sorti Ruse et la série des Wargames, donc ils sont très très spécialisés dans le jeu de stratégie en temps réel. Quasiment la moitié des effectifs de Ugen Systems s'est déclaré en grève. Donc le 14 février, ils le sont toujours à l'heure où on vous parle, donc on est le 19 février. Et ils ont un certain nombre de revendications, et ils disent que ça fait un moment qu'ils sont en pourparlers avec leur direction. Ça fait près de 15 mois déjà qu'ils discutent en fait avec la direction de ce qu'ils appellent de graves atteintes à nos droits. Et ça parle notamment d'heures supplémentaires non rémunérées, entre autres, puisqu'il y a également des classifications qui ne sont pas respectées dans les payes d'un certain nombre de développeurs. Je cite par exemple un développeur Bac plus 4 avec plusieurs années d'expérience et un poste d'ingénieur qui arrive un matin et voit que son statut, en fait, il a le grade de technicien et donc un salaire qui va de pair.
Voilà.
Voilà, donc ça c'est rigolo. Évidemment, le lendemain, Ugen Systems a contre-attaqué, entre guillemets, par voie de communiqué, qui précise, je cite, qu'il n'y a aucune culture du crunch chez Ugen Systems, et que, à l'heure actuelle, Ugen Systems organise, à compter de la semaine prochaine, les entretiens annuels et professionnels des collaborateurs, ce qui permettra un temps d'échange avec chacun. Ce à quoi les grévistes ont répondu par un autre communiqué qui était tout aussi fleuri et répondant point par point, puisque il nous précise que ces entretiens individuels ne les rassurent absolument pas, puisque les derniers, je cite, entretiens individuels en date se sont déroulés sans trace écrite, ce qui est plutôt légal, hein, n'est-ce pas, et ont été l'occasion de faire pression sur des salariés pour qui les minima conventionnels n'étaient pas respectés, afin qu'ils signent des avenants à leur désavantage. Donc ça c'est chouette. Donc pour rappel, les grévistes demandent certains points de régularisation dans leur contrat, que les minima conventionnels non appliqués soient appliqués, que les classifications qui sont dues et non attribuées le soient, que les primes de vacances qui ne sont pas versées depuis de nombreuses années le soient, et qu'on arrête avec le non-respect des lois en vigueur sur le temps de travail. Ils ont également eu une baisse de leur salaire brut au mois de janvier 2018, a priori qui s'est pas spécialement bien expliqué, et puis ils demandent la rémunération intégrale de leur période de grève. Par ailleurs, en fait, on s'est rendu compte que, enfin, ils annoncent qu'il y a un certain nombre de collaborateurs grévistes qui ont été convoqués pour des réunions individuelles pour parler de leur demande de faire grève. Pour eux, je cite, s'il s'agit d'une remise en cause du droit de grève, ce qui est intolérable. Et il précise également que un certain nombre d'employés syndiqués ont été explicitement cités par la direction comme étant des ennemis avérés de l'entreprise. Donc ça fait beaucoup hein, pour Ugen Systems en l'espace de 2 jours. Alors effectivement, les langues se délient, les travailleurs se battent pour leurs droits. Mais il y a quand même un fond assez amer à toute cette histoire, Dwayne.
Assez dégueulasse, ouais.
clairement, enfin, pour moi, c'est vraiment ce que je vais appeler l'exploitation de la passion, parce qu'en fait, ouais. dans tout type, Dans tout type en fait d'industrie, je prends mon cas personnel, j'ai déjà rencontré ce type d'employeur et du coup ce que je fais c'est que moi je switch en fait, je change directement. Sauf que là on est dans une industrie où les gens sont du coup passionnés, du coup les en général les patrons s'en servent pour des heures supplémentaires, te dire ouais on est tous ensemble, c'est la famille, allez taf, fais du crunch, on reste jusqu'à 1h du mat, je paye les pizzas, c'est pour ma pomme, voilà. Donc,
c'est la famille, sauf le jour où on te vire.
C'est ça.
Maintenant, quand on te vire, c'était la famille.
Voilà. Et du coup, on arrive dans cette exploitation, en fait, de la passion et puis de ces gens qui se disent, bon, ça va aller mieux. Il m'a dit à chaque fois, on a compris vos revendications, on va faire le nécessaire. Et rien ne change. Donc, moi, je trouve que c'est... effectivement un mal pour un bien, c'est-à-dire tout ce qui ressort avec que ce soit Quantic Dream ou aujourd'hui Eugène System, c'est des choses je pense qui sont nécessaires, ça va pas forcément tout changer du jour au lendemain, mais il faut vraiment pointer du doigt ce type d'injustice qui est vraiment ancré dans le jeu vidéo. On est vraiment dans une industrie jeune qui a beaucoup profité en fait de cette jeunesse et de cette passion et ce côté un peu freestyle, on va dire.
Ah, c'est vraiment
il faut
ça,
qu'on devienne adulte, quoi. Il faut qu'on dépasse l'adolescence maintenant et qu'on commence à faire les choses correctement.
ATH.
Eugène System, c'est quand même une entreprise française. Et malheureusement, enfin en France, il n'y a pas tant de studios de développement que ça. On n'est pas comme aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Donc, les employés, ils ont envie de garder cet emploi-là parce que travailler dans le jeu vidéo, c'est pas facile pour tout le monde. Surtout qu'il y a très peu de place pour beaucoup d'élus, quoi. Il faudrait vraiment que les employés d'Ubisoft France ou bien de Eugène System et Quantic Dream et les autres studios qui travaillent en France, enfin, puissent avoir les mêmes conditions de travail. Et surtout que leur poste soit reconnu à leur juste valeur, en fait.
Morane.
Ouais, je vous rejoins tout à fait, Dwayne m'a fait penser à un truc, c'est que l'industrie du jeu vidéo, qu'elle soit française ou ailleurs, a beaucoup trop longtemps profité de sa versatilité, c'est-à-dire que c'est une industrie qui est capable d'embaucher à tour de bras et licencier à tour de bras également, et qui multiplie les heures supplémentaires. Et dans un pays comme la France, où c'est censé être quand même plutôt bien réglementé, c'est assez surprenant qu'on puisse se permettre ça, et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les employés de Gen System se sont quand même rapprochés d'un avocat pour rappeler à la loi leurs employeurs. Ça fait 6 mois qu'ils sont en train de batailler, ils ont toujours pas eu gain de cause. Et si je regarde ça et que je me dis ça a pris autant de temps et que c'est toujours pas réglé, qu'est-ce qui empêche d'autres employeurs de continuer dans cette voie-là, dans le jeu vidéo ou ailleurs, bien sûr. Mais je me dis que ce côté un petit peu à la one again et en freestyle, parce que on est une industrie porteuse et qu'on a besoin de toujours produire plus et plus rapidement pour satisfaire une demande, au bout d'un moment, il va falloir mettre les choses à plat et se dire « Non, désolé, mon blockbuster qui... à l'époque, mettait 2 ans à être produit, il va peut-être mettre 3 ans, voire 3 ans et demi, dans des conditions correctes, avec moins de crunch time, avec moins d'heures supplémentaires, pour permettre aux employés, qui sont quand même la force vive, qui est derrière toute la création de cette industrie-là, de vivre dans des conditions correctes, quoi, parce que c'est une citation que j'ai beaucoup vue dans le dernier Crunch Investigation de Canard PC, qui disait qu'au bout de 10 ans, en fait, dans le jeu vidéo, il n'y a plus de passion, quoi. T'es juste furieux. Et c'est pas un métier dans lequel tu entres ou t'es censé en sortir comme ça, quoi.
Alors, moi j'ai juste une chose à dire. À un moment donné, il y a un truc qui s'appelle le code du travail. Alors je sais bien que c'est à la mode ces derniers temps de le foutre en l'air, mais...
Ouais.
Comment dire ? Vous rendez compte à quel point on doit aller dans le secteur du jeu vidéo pour que les gens osent se mettre en grève, quoi. Moi, je suis désolé, mais le coup du salarié qui se retrouve technicien, mais ça me fait hurler de rire, quoi. Enfin, c'est intolérable. Je capte même pas, tu vois, que les gens essaient de négocier avec des trucs comme ça, quoi. Mmh. C'est plus possible, on négocie pas avec les terroristes. À un moment donné, tu leur fous un coup de pied aux couilles, quoi. Merde, enfin, on peut pas tolérer ça, c'est pas possible. Donc, moi, ils ont tout mon soutien, les salariés de Gen System. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, dans les liens de l'émission, je mettrai un lien vers une caisse de grève. Pour les salariés de Gen System. Alors vous donnez pas, c'est vous qui voyez, hein. Parce que ça me paraît important de relier ce genre de choses quand des salariés se battent pour leurs droits, quoi. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, Vous rendez compte, vous devez payer vos factures, etc. Et du jour au lendemain, on vous dit, bah, ton salaire, il a baissé de 1000 euros. Enfin, vous rendez compte de la merde que c'est, quoi? C'est ahurissant.
Parce que t'as osé faire grève.
Et en plus, derrière, on t'annonce des méthodes que moi je connais très bien, hein, parce que j'ai été dans une entreprise qui a eu un plan social, hein, et je connais très bien, par exemple, les méthodes, et je sais qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui sont très bien de quoi je parle, où on te prend un salarié qui est mécontent, on le met dans une salle tout seul, face à trois personnes, et on le traumatise à un point où il sort en pleurant de la salle. J'ai déjà vu ça. Hein. Donc, moi je suis désolé, ces méthodes de voyous, c'est intolérable, c'est inacceptable, et j'espère bien qu'ils prendront cher au prud'homme, Eugène. Parce que j'ai déjà vu des patrons comme ça, là, et c'est inacceptable. Bon, bref. Je me suis énervé, on va passer à la suite.
Non, non, mais t'as bien raison.
On va parler maintenant de Valve, Dwayne.
Tout à fait. Donc, c'est le PDG de Incel Games. Ils ont pas des jeux très connus. Leur dernier jeu, c'est White Buster, donc c'est MMO, hack and slash. Alors, il a envoyé un courrier en fait à ses employés en leur disant, dans les grandes lignes, on n'a que 6 reviews pour l'instant, les gars, sur Steam. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'acheter le jeu. Vous m'envoyez ensuite le récépissé, on vous rembourse. Par contre, voilà, nous, il faut qu'on ait plus de reviews. Si vous avez pas envie de l'acheter, vous venez me dire pourquoi. Je peux rencontrer tous les employés, il y a pas de souci.
Ouais, alors, je t'invite à lire le mail, il est beaucoup moins sympa que ça. Hein.
Il est beaucoup plus dans
le rentre-dedans. C'est, en gros, vous allez voter, si vous votez pas, faut qu'on s'explique dans mon bureau, quoi, tu vois, c'est pas tout à fait le même temps, quoi.
Écoute. Non, mais en gros, voilà, ce qu'il dit, c'est, en gros, allez acheter le jeu, mettez des reviews, parce que là, si on n'a pas de reviews, bah, il faut pas négliger, en fait, l'importance de ça, parce que après, le jeu, il peut ne pas marcher, et si ça marche pas, l'année prochaine, vous avez plus de taf. Ça a été mis sur Reddit. À côté de ça, Valve a fait son enquête. Ils ont totalement supprimé le jeu. ATH, est-ce que tu trouves que la sanction est adaptée? Qu'est-ce que tu penses de ce fameux courrier?
Bah, le courrier, il est dégueulasse, hein. Enfin, très clairement. Mais, mis à part ça, la sanction, je trouve qu'elle est quand même assez sévère. Ils auraient pu faire retirer toutes les critiques du jeu et puis remettre à zéro et essayer de voir ça avec le studio de développement pour les prévenir que la prochaine fois ils seraient pas aussi sympas, quoi. Mais au moins de mettre un petit carton jaune. Et ce que je voudrais savoir, moi, dans toute cette histoire, c'est est-ce que les gens qui ont acheté le jeu, vu que ça a été retiré de Steam, est-ce que eux ont toujours accès au système de jeu? Parce que ça, c'est quand même chose qui... Ils ont toujours accès au jeu?
Oui, tous les jeux qui sont retirés de Steam, les gens qui ont acheté, ils ont accès à leur jeu.
D'accord. Bah, au moins, ça, c'est quelque chose qui est bien. Mais je trouve que quand même, Valve, ils sont allés un peu forts, là-dedans. Même si, entre guillemets, c'est mérité, quoi.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ATH. Moi, je veux dire, enfin, Valve qui fait quelque chose, quoi. Surtout que, là, pourquoi ils ont été aussi sévères? Parce qu'ils veulent faire un exemple, hein, c'est tout, hein. Faut pas chercher midi à 14h, quoi. Ils veulent envoyer le message que, si vous déconnez avec nous, on vous raille de la carte. Vous existez plus et vous êtes mort.
Ils l'ont déjà fait par le passé. Hein.
Oui, enfin, par le passé, ils l'ont fait avec des développeurs qui les ont insultés. Il n'y avait pas encore eu de cas comme ça, ou en tout cas pas aussi médiatisé, où t'as un développeur qui magouille avec les reviews et on le retire. Moi, je suis désolé, c'est normal. Enfin, à un moment donné, Valve va pas passer son temps à donner à leur premier avertissement, deuxième avertissement. Non, non, c'est marqué noir sur blanc dans les règles que tu ne dois pas influencer les reviews, tu déconnes avec le système, tu dégages. Moi, je suis désolé, hein. Pourquoi je suis aussi dur aussi? Parce que j'ai travaillé dans une place de marché. On n'a pas le temps de donner un avertissement, deux avertissements. Et on sait très bien que quand ça marche comme ça, les gens recommencent derrière, en fait. Alors après, si c'est une erreur humaine, que c'est pas volontaire, mais là, c'est quelque chose qui a été fait de manière délibérée. Le mec savait parfaitement ce qu'il faisait. Il dégage, c'est tout. Enfin, moi, je vois pas pourquoi il y aurait de négociation ou machin, quoi. À un moment donné, il y a des règles, tu les suis, quoi, c'est tout.
Bon, après, il y a un côté, déjà, dans un premier temps, la sanction est effectivement très dure, parce que là, en gros, ce que Valve a fait, c'est il a tué le studio, parce que si t'es pas sur Steam, t'es nulle part. C'est effectivement assez dur, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut des exemples, quoi. Mmh. C'est sans des exemples de ce type-là, après, les règles, elles ont du mal à être respectées, donc je suis... Parce que moi, quand j'ai lu la news au début... J'avoue que j'étais là, oh, c'est quand même dur. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, il faut faire respecter les règles. Il sait très bien que tu peux pas faire des fausses reviews, je veux dire, c'est de la logique, c'est même pas une histoire de règles ou autre. Après, je suis d'accord, c'est pas un très gros studio, et là, bah, ils sont envoyés au casse-pipe, clairement. Mais malheureusement, on est obligé de faire des exemples, et bah là, ça sera pour
une seule. Au-delà de l'exemplarité, tu vois, enfin, à un moment donné, si tu n'es pas ferme dans les décisions que tu rends.
Ouais, bien sûr.
Alors, oui, d'accord, on va négocier, machin. T'imagines si t'as mis le gugus comme ça, tu fais comment?
Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as un règlement, tu peux pas.
Parce que, encore, on serait encore à l'époque où Valve faisait rentrer au compte-goutte les gens. On pourrait discuter. Mais au bout d'un moment, quand t'es une plateforme où t'acceptes n'importe qui, ça marche pareil dans l'autre sens, tu vois. Si n'importe qui peut rentrer, il faut que n'importe qui puisse dégager comme ça.
Ça reste quand même très dur, quoi, parce que là, c'est fini, quoi. Déjà que c'était pas un gros éditeur, là, c'est mort, quoi.
On va passer à la suite, messieurs?
Ouais.
Tout à fait.
Une suite qui est un peu liée, d'ailleurs, finalement.
Oui. Parce que là, pour le coup, c'est un, un studio qui a, encore une fois, un problème au niveau des critiques avec une plateforme cancérigène qui s'appelle Google. Comment ça s'appelle leur plateforme à Google déjà, le Play Store?
Google Play Store.
Morgan, je crois qu'il y a un petit souci chez les développeurs de Game Dev Tycoon.
Oui, tout à fait. Très chouette petit jeu d'ailleurs de gestion où, pour le coup, vous êtes à la tête d'un studio de développement de jeux vidéo et donc qui commence au tout début des années 80 et vous emmène jusqu'à la PlayStation 5 si vous voulez. Vous pouvez même la créer, donc c'est développé par Greenheart Games et ces développeurs en fait se sont lancés à l'assaut du Google Play Store avec un jeu donc payant en mode premium, il coûte je crois que c'est $5 me semble-t-il, et en fait ils ont été plutôt contents par les premiers retours des utilisateurs puisqu'ils avaient une moyenne donc de 4,96 étoiles sur un total de 5 étoiles hein, sur le Google Play Store, ça fonctionne pareil que l'App Store. Et le premier jour, ils avaient un truc genre, enfin, un nombre assez conséquent de reviews. Et en fait, une heure après, ils en ont perdu 438. Le lendemain, ils en ont perdu 400 autres. Et puis le surlendemain, ils en ont perdu 650. Et puis après, 500. Et au total, en fait, sur les 3000 reviews qu'ils avaient reçus en 13 jours, eh ben en fait, il y en a 77% qui ont disparu. Tout simplement.
Waouh.
C'est énorme, hein, surtout dans une période d'accélération où justement, quand tu lances ton jeu vidéo sur un store comme celui-ci, ce que tu veux, c'est avoir beaucoup de reviews qui sont positives.
C'est déjà suffisamment difficile d'avoir des reviews.
Ouais.
Parce qu'on parlait de la situation d'Essen Games tout à l'heure.
Ouais.
Si t'en es à un stade où t'as besoin de demander à tes employés de balancer des reviews, c'est qu'il y a un problème dans la com quelque part, de toute façon. Ouais. Les reviews, c'est le nerf de la guerre, quoi. Donc, si en plus la plateforme, par contre, se met à virer tes reviews, là, il y a un gros problème. Mais du coup, c'était un bug. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, donc très légitimement, ils sont allés demander à Google. Et Google leur a dit, bah, tout simplement, que ces reviews contrevenaient à leur politique.
Ah bon?
Voilà, c'est assez vague, comme Google aime bien le faire d'ailleurs en général. Et en fait, ils sont allés du coup vérifier que disent ces termes de politique. Donc il y a des histoires de bon, pas de commentaires racistes, machin, que ça reste lisible, qu'il y ait pas de contenu abusif, pas de menaces, etc. Ils sont allés demander en fait sur Twitter à leurs fans qui ont eu du coup bah l'envie d'acheter leur jeu sur le Google Play Store si déjà un ils avaient remarqué que leur review avait été effacée et s'ils auraient eu la gentillesse aussi de leur transmettre le texte de cette review. Ils ont reçu un certain nombre d'échantillons de critiques, 5 étoiles pour la plupart d'ailleurs, qui étaient soit juste 5 étoiles avec pas de texte, donc ce qui là pour le coup paraît bizarre de contrevenir aux règles de Google, et d'autres qui sont extrêmement positives avec aucun mot plus haut que l'autre. Donc, a priori, ça contrevient pas à la politique de Google. Le souci, en fait, c'est que Greenheart Games, ils ont pas eu d'autres nouvelles de la part de Google à ce propos, et donc ils se sont dit, bah, en fait, on va juste essayer d'imaginer ce qui s'est passé, sans avoir de réponse officielle. Et donc, de la part de Patrick Klug, qui est donc chef chez Greenheart Games, en fait, lui, il dit, bah, tout ce que je peux supposer, c'est ça. D'après lui, en fait, ce qui se passe, c'est que Google utilise le même algorithme pour identifier les reviews qui sont fausses à la fois sur les jeux free-to-play qui sont publiés sur son store, et les jeux premium, donc les jeux avec un paywall, où il faut acheter le jeu pour pouvoir y jouer, ce qui est le cas de Game Dev Tycoon.
Parce que on peut imaginer que sur un jeu gratuit, pour le coup, c'est très facile d'engager une boîte qui va mettre des fausses reviews positives. Ouais. Comme il y a rien à payer, de toute façon, rien de plus facile que d'augmenter le score de la note, quoi. Alors que c'est pas tout à fait la même problématique sur un jeu où il faut sortir la carte bleue quand même. Hein.
Voilà. Donc du coup, ça reste des suppositions évidemment, mais face à l'évidence, tu peux te dire que il y a que ça en fait qui peut être possible. Et le billet se termine par un joli petit tacle à l'encontre de Google qui dit c'est bien tout ça en fait, votre algorithme il a l'air de bien fonctionner pour les jeux free-to-play, pour filtrer les reviews qui sont fake. Alors bon, visiblement ça atteint aussi les jeux premium comme le nôtre, mais où est-ce qu'il est du coup votre algorithme quand il faut cacher des liens pour pirater mon jeu? Parce que pour le coup, quand tu tapes Game Dev Tycoon Google Play Store APK, tu peux le pirater comme tu veux, en fait, grâce à Google.
Ouais, il est où aussi l'algorithme pour virer tous les clones Bon, quoique, dans le cas de Game Dev Tycoon, ils pourraient difficilement faire cette remarque, parce qu'ils ont quand même un peu pompé un autre projet à la base.
Alors, j'ai jamais su, du coup, qui était l'œuf et la poule dans cette histoire entre Game Dev Story et Game Dev Tycoon.
Quoi qu'il en soit. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse de tout à l'heure. Là, c'est la plateforme qui déconne totalement, quoi. Enfin, c'est le problème de Google, en fait. C'est-à-dire que Google, c'est les gars, ils font un truc, ils s'en foutent. Regardez ce qu'ils font sur YouTube, quand ils changent leurs conditions d'utilisation, tout ça, qu'ils foutent dans la merde tous les créateurs de vidéos, etc. Ils s'en foutent complètement, YouTube. Enfin, c'est affolant. Chez Google, t'as l'impression que c'est la politique du « vas-y, on balance un nouveau truc ». On réfléchit pas et on s'en fout, en fait. Et puis, si vous êtes pas content, de toute façon, c'est nous les boss. Donc, allez vous faire foutre. Et là, pour le coup, c'est un abus caractérisé, typique de chez Google, quoi. Et malheureusement, par contre, moi, j'ai un peu peur d'une chose, c'est que, comme à son habitude, Google s'en fout, quoi. C'est-à-dire que, Google, quand ils ont décidé de faire un truc, en général, ils le font. Et faut vraiment, vraiment qu'il y ait une polémique de ouf malade pour qu'ils changent un truc, quoi. Donc, moi, j'ai peur que malheureusement, derrière, ça continue comme en 40, quoi. Et que l'exemple, là, se reproduise, quoi. Et c'est d'autant plus scandaleux que là, on a la double peine. C'est-à-dire que quand tu es un studio qui fait des jeux premium comme ça, où il faut payer, c'est déjà suffisamment galère sur téléphone, parce que on sait que sur téléphone, les gens sont pas habitués à payer tout court, alors payer cher encore moins. Hein. Voilà. Donc déjà, t'as cette première barrière-là. Et t'as Google qui revient te mettre un taquet derrière en te disant « Non, toutes tes reviews positives vont te les virer. » Allez hop, il y a trop de reviews positives sans commentaire. C'est peut-être des reviews suspectes, donc dans le doute, on les vire. Ils ont payé le jeu. Enfin, c'est à un moment donné, tu réfléchis ou... Ah non, excusez-moi, c'est vrai, c'est un robot qui fait le truc, il réfléchit pas. Dwayne ?
Ouais, non, mais c'est ça, Google, c'est même pas qu'ils réfléchissent pas, c'est la politique de la masse sans faire attention aux différents éléments, c'est-à-dire ce qu'ils font avec YouTube, c'est on a un problème avec les sponsors, etc. Ça, c'est jeux vidéo, vas-y, c'est démonétisé, on s'en fout, ça sera juste l'algorithme.
On s'en fout que ce soit du fair use, que ça...
Voilà, exactement. C'est... Et là, c'est pareil, c'est on va dire que le... Là, Game Dev Tycoon, enfin, c'est même pas une goutte d'eau dans l'océan de Google. Tant que c'est pas Supercell qui les appelle pour leur dire « j'ai un souci avec telle chose », ça a pas d'impact pour eux et ils vont clairement pas changer. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura aucune évolution à ce niveau-là. C'est juste que c'est quelque chose d'extrêmement gênant pour un petit développeur. Et malheureusement, tant qu'on deal avec Google, ce sera la politique de la masse et ils s'en foutent de la vie d'un mec ou de cette goutte d'eau qui a aucun impact sur eux.
ATH.
Ce que je comprends pas, moi, c'est pourquoi Google, en fait, ils font pas marche arrière, vu que, très clairement, il y avait aucun message qui était en contradiction avec les conditions d'utilisation, donc, rien n'empêche Google de faire marche arrière, quoi.
Ouais, mais rien ne les oblige à faire marche arrière, donc ils le feront pas. Quand t'as une boîte comme Steam, comme Google, qui est en position dominante, qui peut faire ce qu'elle veut sur son store, et de toute façon, si t'es pas content, dégage. Ça marche comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils font un truc. Ah bon, non, mais ça demanderait faire du développement, tout ça, on n'a pas envie. Qu'est-ce que c'est bon. Non, mais c'est ça, hein. Moi, à mon avis, faut pas chercher plus loin. Hein.
C'est ça. En fait, ce qu'on oublie avec Google, c'est qu'ils sont chez eux. Enfin, c'est comme quand t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Si quelqu'un fait un truc que t'aimes pas, tu lui dis, J'aime pas des gages, sauf que le problème, c'est que le Play Store, c'est dominant. Non, mais c'est que le Play Store, c'est dominant, Steam, c'est dominant. Et derrière ça, bah oui, c'est chez eux. Sauf que c'est le seul endroit où tu peux aller.
C'est ça le problème.
C'est ça le problème.
On serait dans un monde idéal où il y aurait plein de stores, etc. Mais ça marche pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que si tu dégages de chez Google ou de chez Steam, t'es mort, quoi.
Ouais, mais le problème, c'est que, enfin, même si t'es chez eux, entre guillemets, rien ne lui empêche Google de se comporter comme un connard. Enfin.
Oui,
on est d'accord.
C'est exactement ce qu'ils font, du coup.
Non, mais je comprends que Google utilise un algorithme parce qu'il y a beaucoup de flux. C'est normal qu'ils mettent un filtrage. Mais, déjà, le filtrage, il faudrait peut-être revoir l'algorithme. Et de deux, enfin, je sais pas, il n'y a pas des lois qui interdisent ce genre de pratique aussi parce que, enfin, moi, je pense qu'il devrait y avoir une action qui fasse jurisprudence pour ce genre de cas-là, quoi. Parce que c'est pas possible, enfin. Tu définis des règles clairement, mais après, il faudrait peut-être que tu les appliques toi aussi, parce que c'est un peu malhonnête de leur part, quoi.
Non, mais en plus, le pire, c'est que ils sont même pas transparents, quoi. C'est-à-dire que là, on parle sur un truc, mais ça se trouve, c'est même pas ça, parce que le gars a dû faire des déductions, tout ça parce que Google n'a pas voulu lui expliquer clairement pourquoi ils ont retiré les reviews. C'est un peu ce qu'on disait, vous savez, avec GOG. Pourquoi GOG refuse les jeux sans explication? D'ailleurs, soit dit en passant, ils ont fini par l'accepter au pouce magnum. Comme quoi, des fois, gueuler, ça peut marcher. Mais bon, ça ne marche que quand c'est au GOG et que c'est un petit acteur. Et avec Valve, à mon avis, ça serait pas la même histoire, tu vois.
La vraie explication, moi, je l'ai, c'est que juste le patron de Google, il aime pas Game Dev Tycoon. Voilà. Et du coup, voilà, il les a fait chier, quoi.
Mais le pire, c'est que ça pourrait être ça. Enfin, comme c'est Google et que Google, il s'explique jamais, on pourrait dire ce qu'on veut, en fait. Ça pourrait être vrai, peut-être, on sait pas.
Bah tiens, puisqu'on est dans les suppositions, je vais y aller de la mienne. C'est peut-être que Google s'est dit, ils ont pas payé assez de budget publicitaire pour les mettre en avant sur notre store. Vous passez pas la caisse, on va vous faire chier. Enfin, vu que Google ne répond pas vraiment, dans ce cas-là, on peut aller dans toutes les suppositions possibles, inimaginables, je suis désolé.
Bon, allez, et on va terminer cette semaine par une recommandation. Alors, c'est une recommandation personnelle, c'est une série documentaire assez courte. Il y a une dizaine d'épisodes, ça s'appelle History Screed, c'est fait par Arte et Nota Bene, donc Nota Bene, hein, youtubeur, tout ça, qui a une chaîne consacrée à l'histoire, et donc ça parle du traitement de l'histoire dans le jeu vidéo. C'est une série de documentaires que moi je vous recommande très chaudement, c'est vraiment intéressant, surtout pour voir le point de vue des développeurs. C'est-à-dire que, par exemple, tu te rends compte que les développeurs chez Ubisoft, ils ont parfaitement conscience que ils vont souvent nawak avec l'histoire et qu'ils s'en foutent, en fait. Parce que, très clairement, ils expliquent, par exemple, vous verrez que, pour eux, l'histoire, c'est vraiment un prétexte pour mettre en place leur truc à eux, quoi. Et que, ils ont pas vocation, en fait, à raconter une histoire authentique, quoi. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est la manière dont ils abordent la question de la fidélité à l'histoire, même quand on est avec un studio qui cherche cette authenticité-là. Il parle notamment d'un jeu qui fait assez polémique en ce moment sur Twitter, c'est Kingdom Come Deliverance. Par exemple, ils évoquaient le fait que ils faisaient des animations avec des vrais maîtres d'armes. Sauf qu'ils se sont rendus compte que ça pose un problème, ça, parce que à l'époque, les soldats, c'était pas tous des maîtres d'armes. C'était souvent des pecnos qui avaient jamais combattu de leur vie, quoi. Donc, du coup, ils ont dû faire un deuxième batch d'animation pour les pecnos. Et, c'est très intéressant. Ils abordent aussi la question de la propagande. Ça parle notamment de jeux qu'on apprécie beaucoup ici, comme Spec Ops The Line, par exemple. Ils abordent la question de l'Uchronie, etc. Enfin, bref, c'est l'histoire dans toutes ses formes, dans le jeu vidéo, la manière dont c'est traité. Ils donnent la parole aux développeurs, ils donnent la parole à des historiens, etc. C'est vraiment une série de documentaires assez cool, faite par Arte. Je vous mettrai le lien dans la description de l'émission, comme d'habitude. Donc, ça fait 10 documentaires d'environ entre 5 et 8 minutes à chaque fois.
Ouais, c'est variable.
Voilà, une chaude recommandation de ma part.
Et ce qui est bien dans les jeux vidéo, moi, je trouve, c'est que quand il y a certains jeux qui te disent « ce qu'on fait, c'est complètement n'importe quoi », mais ça te permet d'apprendre, en fait, la vraie histoire ou bien d'où vient ce personnage-là. Par exemple, pour prendre un peu un contexte, c'est par exemple une invocation de Final Fantasy, c'est Léviathan. Léviathan, je ne savais pas qui c'était avant d'avoir joué à Final Fantasy. J'ai cherché, j'ai tapé le nom Léviathan, et en fait, j'ai appris que c'était un démon biblique, ou bien c'est pareil pour Ifrit, qui est un djinn, en fait, qui est inscrit dans le Coran. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, des références qui sont prises dans les jeux vidéo, et moi, je trouve ça bien quand tu prends quelque chose et qui te permet, en fait, d'aller toi-même plus loin derrière. Mais c'est sûr que si tu prends un jeu tel quel, il faut jamais se fier à un jeu comme ça, quoi. Et notamment aussi, enfin, la question pour moi la plus importante aussi, c'est tout ce qui concerne la propagande, en fait, qui est faite dans les jeux vidéo. Par exemple, quand on pense à Call of Duty, la première chose qui me vient en tête, c'est les Américains, fuck yeah, tu vois.
Donc voilà, bravo Arte pour le coup.
Je valide également, surtout Arte Créative en général, Beats, HistoryScreed, il y a pas mal d'émissions, vous devriez trouver votre compte, quoi.
Non, mais surtout qu'ils ont pas pris n'importe qui, en fait, parce que quand même, Alain Nota Bene, c'est quand même quelqu'un qui fait quelque chose d'assez sérieux sur l'internet francophone. Il est pas là à faire des unboxings ou bien des dégustations à la con. Il est quand même pas mal renseigné sur le sujet. Moi, je sais que c'est une chaîne que j'aime bien regarder comme ça de temps à autre. C'est aussi bien pour lui d'avoir cette reconnaissance-là, quoi. Tout travail mérite salaire, et surtout quand tu fais du bon boulot. Bah voilà, enfin, moi je trouve que ça très bien, cette collaboration avec Arte et Nota Bene.
Ok, bon, allez messieurs, on s'arrête là pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Salut.
Bye bye.
En espérant que Orange ne coupe pas à nouveau ma connexion.